Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Faites Valser vos idées, l'émission qui secoue les méninges sans se prendre la tête. On commence tout de suite avec The Sink Man, l'homme malade, Max.
Bonjour, je suis l'idiote du village, il y en a toujours une assise sur un banc de la place de la mairie, ou debout devant l'église, la bave aux lèvres. Eh ouais, c'est moi, le regard débile. Pas trop, hein, mais quand même, au bout d'une minute à me demander le chemin pour Saint-Hippolyte, et la voiture, elle repartait. Et il disait, c'est fou tous ces idiots du village. Y a qu'ici qu'on en voit. Ça, faudrait les enfermer. Mais ça aussi, je l'étais au service psychiatrique de l'hôpital de Saint-Hippo. Quand maman, elle pouvait plus me calmer avec les 14 valium par an, à crier, hurler derrière la grille, un an à griffer les murs, taper contre la porte et pisser sur moi et manger mes excréments. Typique, disait le docteur. Typique. J'étais une idiote typique. Et au bout d'un an, et j'étais encore l'idiote. Oui, c'est moi, l'idiote. Bonjour. Alors, je suis resté à la maison avec maman et papa. Et je cassais tout. Papa réparait, maman pleurait, je crevais les yeux du chat et papa l'enterrait, maman pleurait et je poussais des grognements et des gémissements. J'ai mal. Et maman, elle me prenait dans ses bras. Et papa, il pleurait et j'étais vraiment l'idiote. L'idiote typique. Avec les gamins qui attachaient mon pied au banc ou me cachaient dans les toilettes de la mairie, j'étais quand même l'idiote du village, avec mon sourire béat, à rester toute la journée dehors sans bouger, avec sa mare de bave à mes pieds, et à rentrer pour casser ce que papa avait rafistolé et me blottir dans le giron de maman. Faut les comprendre, je les comprends. Mais je pouvais rien dire, mais rien ne sortait. Typique pour une idiote du village. Typique. Sauf quand maman m'a fait boire du terre-haleine mélangé à de la grenadine. Et qu'enfin, là, j'ai arrêté de respirer. Alors là, c'est venu d'un coup d'un seul. Hein. Je me suis mis à parler, que je n'arrête plus. Mais bon, typique, ils vont dire typique pour l'idiote du village.
C'était un extrait de La Mastication des Morts, une pièce de théâtre de Patrick Kerman, qui était jouée cet été au Festival d'Aurillac. Pièce qui me laisse des souvenirs, d'ailleurs. Bref. J'ai été faire un tour au festival du théâtre de rue cet été et c'était super et très familial, pas comme à la télé. Il y avait plein de trucs dont j'aimerais parler d'ailleurs, mais pas le temps. Attention, le rond-point. Merci chauffeur. Voilà, ça c'était l'ambiance à Aurillac dans le bus. Alors bon. Autant parler de ce qui m'a le plus marqué. Une compagnie qui s'appelle L'Altesse de l'air a présenté un triptyque des pièces du clown sol Marc Favreau dans Le Monde Réel, joué par Marie Thomas, et c'était incroyable, j'en ai eu les larmes. On trouve facilement sur YouTube la compagnie L'Altesse de l'air pour des extraits. Il suffit de taper la compagnie L'Altesse de l'air. Du coup, on va vous faire un extrait d'un texte de Marc Favreau, alias le clown sol. Et attention, c'est parti.
Alors tu vends ta guitare, tu grattes les fonds de terroir et tu quittes la raison paternelle et tu pars. Mais tu pars pas tant tellement loin. Ton rêve, c'est pas de partir au soleil, c'est de te payer un mois d'extravagance en Californaise.
Non, ton rêve, c'est la ville. T'as entendu des voix. Arrive en ville. Et tu te retrouves au terminus. Tout le monde descend. Et c'est elle. C'est la ville qui t'entraîne dans sa grande bougeotte. Tu te laisses aller, tu étreignes la rue de Sainte-Vitrine, tu suis la foule qui se défoule et qui te refoule. Tu flottes dans l'urbain tourbillon. C'est agréable. Mais ça peut pas durer. Un beau matin, ça y est, t'as beau tourner et retourner tes poches, c'est toujours le même trou. C'est pas grave. Il n'y a qu'à faire comme les autres et se mettre à travailler. Et tu cherches, et c'est là que tu vois. C'est pas simple, t'es pas tout seul. Les autres aussi, ils cherchent. Et ils trouvent pas, et toi non plus. Il n'y a rien à faire.
Pourtant, tout ce que tu veux, c'est te faire une petite piastre au soleil. T'es pas venu là pour rester oiseux à rien faire. Tu veux pas te faire traiter de vagabond en rien, de comédien errant, de parfait néant. Alors tu cherches, tu traînes sur le trottoir. Tu transpires ta ville d'un bout à l'autre. Et tu cherches, et tu regardes les petites annonces.
Vous êtes jeune ? Vous avez l'esprit d'entreprise ?
Mais c'est moi, ça !
Venez nous voir.
Oui, oui, j'y vais.
Si vous avez 5 ans d'expérience.
Merde, toujours pareil, faut de l'expérience. Ils sont drôles avec leur expérience. Quand on est jeune, tout ce qu'on a, c'est de l'expérience. L'espérance, ça vient après. Tiens, en voilà une qui ne demande pas d'expérience.
Êtes-vous prêt à faire du porte-à-porte ?
Tu parles. Je ferai même du mur à mur.
Devenez vendeur à domicile.
Ça, c'est pas mal. Tu restes à la maison. C'est pas pour moi. J'ai même pas de maison.
Le soleil, lui, la ville paraît endormie, plus aucun bruit. Mais où sont les belles que l'amour appelle? Et dans tout Grenade, pas de sérénité. Voici la nuit, le jour s'enfuit, on chante, on rit, les seigneuras, seigneuritas, tout vous sourit, et leurs yeux qui brillent, derrière les mantilles, donnent rendez-vous. Les jolis soirs dans les jardins de la Alhambra. Les soirs très lourds dans le parfum des mimosas. Les soirs joyeux où l'on est de les soirs d'amour. Soir très lourd dans le parfum des mimosas. Les soirs joyeux où l'on est de les soirs d'amour. Où l'on jure d'aimer, où l'on jure d'aimer, 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 d'aimer toujours. toréador, épicador, des corridas, Manolitas, fille jolie de la plaza. Une rose aux lèvres, un regard de fièvre, c'est l'Espagne.
C'était Les Jardins de l'Alhambra d'OSF, extrait d'un concert à la Turbine qu'on peut retrouver sur la chaîne OSF sur YouTube. Et maintenant, on part du côté court avec Jean-Michel.
Ouais, salut les loulous, salut les louloutes, ainsi qu'à tout le monde, ça va ou quoi?
Ouais,
ouais. Ouais, ouais, j'ai rien entendu. Alors bon, comme il n'y a pas assez de musique sur Radio Scapade, eh ben on va parler musique pour cette troisième saison. Alors faites valser vos idées, à vous de deviner de quel groupe ou de quel artiste je parle. Vous allez me dire, mais c'est un quiz.
Mais c'est un quiz.
Eh ouais, c'est un quiz les amis. D'abord on se met en condition, allez on se concentre, on se détend les cervicales, on se prend un petit café, c'est pas l'heure de l'apéro. Quoique... Alors, c'est un groupe britannique originaire de Guildford en Angleterre. Ils ont évolué d'album en album, passant du rock au post-punk. Enfin, je vous parle, ils ont pas tâté du classique, mais sinon le reste, ils ont tout tâté. Hein. Du jazz, reggae, de la soul, du rhythm and blues. Alors, leur son est caractérisé par la basse de Jean-Jacques Burnell, hein, agressif et mélodique en même temps. Et par des artistes de Dave Greenfield qui jouent aussi bien de l'orgamon, du synthétiseur, du piano, du clavecin. Alors ils sont apparus peu avant la première vague punk à laquelle ils ont été associés, hein, bien sûr. À l'origine, il y a Jet Black à la batterie, Jean-Jacques Burnell à la basse et au chant, Hugh Cornwell à la guitare et au chant, Dave Greenfield au clavier et au chant.
Je sais.
Non, mais il ne faut pas lire maintenant.
Ah oui.
Alors, c'est un groupe créé donc en 1973 qui se produit encore cette année, surtout en Angleterre, avec, vous en doutez, une formation un peu différente qu'à leur début. Alors, ils affichent complet quand même sur certaines dates, hein, voilà, et ouais, après plus de 50 ans d'existence, autant dire des fossiles. We'll be right back. Alors, c'était Hanging Around sur l'album Ratus Norvegicus de 1996. Alors, si vous aussi, ben, vous tournez en rond, vous rôdez, vous allez me dire, alors c'est qui ?
Alors c'est qui ?
Eh ben, la réponse, c'est tout à l'heure. Et ben, tout de suite, c'est à Jean-Pierre pour des histoires très chaudes.
Merci Jean-Michel. L'été est fini et les moustiques sont partis. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Bon, blague à part, laissez-moi deviner, vous avez eu chaud à peu près comme tous les étés. Vous faites peut-être partie de ceux qui ont dit...
Oh là là,
c'est plus possible cette chaleur, chaque année c'est pire.
Ou encore...
J'en ai marre, avec l'âge, je supporte de moins en moins.
Si je vous dis que les fortes chaleurs, voire les très fortes chaleurs, ne sont pas un phénomène récent, me croirez-vous ? Pour vous convaincre, nous allons plonger dans le passé où les températures se sont vraiment affolées. Tout d'abord, l'été, l'année 1911. Cette année-là, la chaleur est accablante et va durer plus de 70 jours pour s'achever en septembre. États-Unis, Russie, Suisse, Espagne, France, la chaleur sème la mort partout, principalement des gens âgés et des enfants. En France, l'été 1911 voit les températures dépasser régulièrement les 35 degrés, on touche même 39. Un quotidien français écrit à l'époque.
Sur le boulevard, hier, le thermomètre marquait à midi exactement 47 degrés.
La chaleur de 1911 a des répercussions sur l'agriculture avec des maïs qui se recroquevillent et des betteraves qui cuisent dans la terre. L'avantage, c'est que ça fait gagner du temps pour la cuisine. Les puits tarissent, les fontaines sont prises d'assaut et personne ne sort par plaisir car les rues sont brûlantes et impraticables. Le nombre de morts atteindra 40 000 personnes. Et au début du XVIIIe siècle, en 1718-1719, une vague de chaleur meurtrière va frapper une partie de l'Europe. Selon un historien qui évoquait le sujet en 2003, cet été brûlant, sans pluie, aurait causé la mort de 700 000 personnes, avec des nuées de sauterelles et un climat saharien sur l'île de France. Le royaume impuissant, devant ce phénomène, laissera l'Église implorer Dieu pour obtenir la pluie. Quelques années auparavant, en 1705, la France du roi Louis XIV souffre. Le 6 août 1705, le liquide du thermomètre de référence installé depuis 24 ans à Paris monte en pression et au bout d'un moment, il fait exploser le thermomètre. D'ailleurs, plusieurs thermomètres ont connu le même sort, la température ce 6 août atteignant 39 degrés. La belle-sœur du roi Soleil, la princesse Palatine, écrivait dans une de ses correspondances...
Je suis d'une façon extraordinaire. Voilà 2 mois qu'il n'est pas tombé une goutte de pluie. Je n'ai jamais vu un été tel que celui-là et la chaleur augmente chaque jour. Les feuilles sur les arbres sont desséchées, comme si le feu y avait passé.
Et la princesse Palatine ajoute qu'elle n'a pas du tout l'intention de se rendre à Paris à ce moment.
Cet endroit horrible, puant et très chaud. L'extrême chaleur y fait pourrir beaucoup de viande et de poisson. Et cela, joint à la foule de gens qui pissent dans les rues, cause une odeur si détestable qu'il n'y a pas moyen d'y tenir.
D'autres effets se font ressentir. Les vignes sont brûlées et les œufs peuvent cuire sur des pierres au soleil. Le niveau d'eau baisse et les maladies surviennent. On estime aujourd'hui que cet épisode a causé la mort de 200 000 à 500 000 personnes. Autre année mémorable, 1540. Cette année-là, le continent ne voit quasiment aucune goutte de pluie pendant plusieurs mois tombée en Europe. Les informations que nous avons de cette époque rapportent que les récoltes sont anéanties, de gigantesques incendies de forêts se manifestent un peu partout, des fleuves sont à sec, notamment le Rhin, que l'on peut traverser à certains endroits à pied, et les températures sont bien sûr extrêmes. Selon certaines sources, les températures moyennes de cet été 1540 auraient dépassé celles de la canicule de 2003, entre 4,7 et 6,8 degrés de plus. L'impact de cette chaleur force une partie de la population à migrer et entraîne avec elle aussi son lot de maladies, typhus, dysenterie, mais aussi famine et fatigue généralisée. D'autres étés très chauds ont été recensés, comme les années 1636, 1639 ou encore 1757 et 1793, en pleine révolution. Quelque chose d'important à noter, c'est que la plupart de ces périodes de chaleur se situent en plein petit âge glaciaire, qui s'étend du XIVe au XIXe siècle. Les étés sont alors frais et humides, les récoltes pas fameuses, mais les hivers sont froids et longs, comme en témoigne l'année 1709, où les températures à Paris atteindront moins 20 degrés et provoquant des dizaines de milliers de morts avec du vin qui va geler dans les caves.
Mon Dieu, quelle horreur!
T'as raison, c'est une hérésie, vivement la révolution!
Germaine, va chercher le vin à la cave! Germaine, qu'est-ce que tu fous?
C'est collé à la bouteille, c'est volé!
Bah, c'est pas possible, c'est à 17 degrés, c'est écrit sur l'étiquette.
Vivement la canicule!
Même s'il pleut, l'été sera chaud, dans les t-shirts, dans les maillots, la Côte d'Azur à Saint-Malo. We'll be right back.
C'était Éric Chardin avec l'été sera chaud et les températures continuent de monter sur Radio Escapade.
Et ouais, on est chaud, mon Jean-Pierre. 102,0 à la salle, tu te rends compte? 103,3 à Ganges,
c'est
le
énorme,
vivant.
C'est ouais, énorme.
Et 1424 racine carrée de 12,1 à Saint-Hippolyte-du-Fort. C'est énorme. Et maintenant, pardon, ça m'a troublé. C'est la chaleur.
Et voilà, il fait n'importe quoi, comme
ça
toujours.
Plus. Ça m'a monté au cerveau. Et puis, il y a une espèce de blanc. De
chaleur.
Pas, voilà.
On repose, peut-être.
Bon, et maintenant, Jean-Michel continue d'exploser le thermomètre. Vas-y, Jean-Michel. Explose.
Oh, j'ai chaud. Bon, c'est la suite du quiz. La suite du quiz. Alors, avec des tubes.
Ah, mais c'était un quiz!
Avec des tubes comme écoutez bien. No More Heroes, Golden Brown, Away the Sun, Peaches, European Female. Alors, c'est un groupe qui comprend une discographie de 18 albums studio, hein, quand même. C'est pas rien non plus. 15 albums live.
Mais
parce que je suis allé les voir en live il y a quelques années, c'était tuerie complète quoi. Ils ont fait aussi des nombreuses compilations, tu vois. Alors, vous avez trouvé c'est qui, faut pas le dire maintenant, hein. Mais non. Comme on dit aujourd'hui, c'est qui.
Ah, on le dit maintenant, on le dit. Moi je sais, hein, j'ai.
We'll be right back.
Alors c'était...
Non, je peux le dire, ça y est, c'est mon tour.
C'était Blue Sister sur l'album Féline. On arrive à la fin du quiz, les amis. Enfin, on arrive sur la ligne d'arrivée. Alors donc, bien évidemment, mais c'est bien sûr, ce sont
The
Ah non, tu m'as pas laissé dire. Elle m'a volé la victoire.
Vous avez deviné. Vous avez le droit à un petit bonbon au gingembre. Oui. Ah non, vous l'avez déjà eu tout à l'heure. Ok. Alors, tout de suite, sans transition, c'est à Lydia pour l'actu.
Hey, bonjour tout le monde. C'était la rentrée. Je suis ravie de vous retrouver. Coucou les copains.
Coucou.
Et quelle rentrée! Donc, Bérou a décidé d'engager la responsabilité de son gouvernement sur la question de la dette lors d'un vote de confiance à l'Assemblée nationale. Bérou, il s'est dit « Bon, les gens, ils sont pas contents, mais de toute façon, le vote de confiance, ça passe toujours, c'est juste une formalité. » Techniquement, il n'a pas tort. Depuis 1958, il y a eu 41 votes de confiance et aucun gouvernement de la 5e République n'est tombé à cause d'un vote de confiance rejeté. Eh ben, c'est une première. Nous voilà avec un nouveau Premier ministre. Bon, c'est jamais que le 5e. D'ici les prochaines présidentielles, on va en voir d'autres. Ou alors, vu que celui-ci est un fidèle de notre bien détesté président, on l'aura jusqu'au bout. Du coup, chez nous, en France, on se mobilise, pas trop le 10 septembre et beaucoup plus le 18 septembre. 500 000 manifestants selon la police et un peu plus d'un million selon les syndicats. Bon allez, on va dire 750 000 manifestants encadrés par 80 000 policiers. Parce que vous savez, hein, protester de nos jours est davantage considéré par nos gouvernants comme un acte criminel qu'un acte visant à défendre nos droits et libertés constitutionnelles. Pour les journaux anglais, les Français ont manifesté selon le Télégraphe.
Parce qu'on est contre l'austérité.
Pour le Times.
On en a ras-le-bol de notre président.
Les manifestants français peuvent s'accorder sur une chose.
Macron doit partir.
Quant au Guardian, il donne largement la parole aux manifestants et aux syndicats. Le journal cite notamment Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. La colère est immense, la détermination aussi. Mon message à Monsieur Le Cornu aujourd'hui est le suivant. C'est la rue qui doit décider du budget. Passons du côté des États-Unis. Wall Street Journal fait état...
Des centaines de milliers de manifestants qui se sont déversés dans les rues à travers la France ce jeudi.
Leur objectif ?
Faire pression sur le président Emmanuel Macron et son nouveau Premier ministre pour qu'ils abandonnent toute mesure d'austérité.
Le New York Times offre une lecture économique de la crise dans un article titré
« Taxer les riches !» crient les manifestants.
Le journal new-yorkais met en avant la proposition de l'économiste Gabriel Zucman d'imposer une taxe de 2% sur les fortunes supérieures à 100 millions d'euros. Cette proposition touche au cœur d'un débat qui déchire la France. Le gouvernement doit-il redresser ses finances en réduisant les dépenses de retraite, de santé et d'éducation ou en taxant les ultra-riches à un moment où les rangs des super-riches ont augmenté ? Je ne suis pas certaine que ça déchire la France parce que entre augmenter un petit peu les taxes des ultra-riches ou réduire les dépenses pour l'avenir de la France, finalement, de nos enfants, avec moins d'éducation, pas sûr.
Bah non, alors. Hein.
À l'international, poussé par une arrogance et une impunité qui lui ont réussi jusque-là, Israël a bombardé le Qatar. Poussé par cette même hubris, Poutine fait voler des drones au-dessus de la Pologne et survole l'Estonie. Pendant ce temps-là, Trump himself prétend n'être au courant de rien, être fâché et déçu par Poutine et réclame son prix Nobel de la paix. Ah, attendez, il a encore changé d'avis. Bon, finalement, il a peut-être renoncé à son prix Nobel, il doit plus trop y croire, parce que maintenant, c'est abattons les avions, les drones russes qui auraient l'outrecuidance de survoler les pays de l'OTAN. En plus, Poutine, il est nul, il a perdu la guerre. Bon, voilà, ils ne sont plus amoureux, ils sont plus copains. Alors, je ne sais pas si ça va durer longtemps, mais là, actuellement, il faut aider l'Ukraine. C'est ce qu'il dit. Sarkozy a été condamné à 5 ans de prison dans l'affaire du financement libyen.
Ah bon ?
Je suis innocent. Cette justice est un scandale. Je dormirai en prison, mais la tête haute.
C'est vrai, c'est un scandale.
Ouais, sans doute, devrais-je comparaître, menottes en main, Ceux qui me haïssent à ce point pensent m'humilier. C'est qu'ils ont humilié. Ce qu'ils ont humilié, c'est la France. Voilà.
Moi, je pense que Marianne se sent bien. Pas à être se porte
quand
bien.
Je dis ça, franchement, j'y arrive pas. Quoi. J'ai eu beau lire ce texte mille fois.
Super riche, lui.
Je suis innocent. Je suis innocent. C'est juste si c'est un scandale.
C'est un peu ça. Alors, l'émission Jimmy Kimmel Live a été supprimée pendant une semaine pour des propos tenus après l'assassinat de Charlie Kirk, qui avait indigné le camp trumpiste. Mais pour son retour à l'antenne, Jimmy Kimmel a réuni 6,2 millions de téléspectateurs, soit 4 fois plus que la moyenne de la saison passée. Mauvais coup pour les trumpistes, ils ont fait une publicité monstre à celui qui voulait faire taire. Le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada et le Portugal ont officiellement reconnu l'État palestinien lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, le dimanche 21 septembre. Ils ont été suivis lundi 22 septembre par la France, la Belgique, le Luxembourg, Malte et Andorre. Comme je vous l'ai dit, c'était une rentrée chargée. Bon voilà, c'est la rentrée quoi. Allez, on se motive. On va continuer à danser au bord du précipice en se disant que jusqu'ici, tout va bien. Et surtout, vivement les prochaines vacances.
C'était les Stranglers.
Thank you.
C'était Ten Ways to Lose a Crown de Saya Gray. Et maintenant, une petite question. D'où vient l'expression l'été indien? Ou qu'est-ce que ça représente?
C'est un été avec du curry.
Mais non, mais c'est pas ces Indiens-là, ouais. Le mec. Alors là, franchement...
Monsieur l'intellectuel.
Non, mais quand est-ce qu'on parle d'État indien?
C'est un rapport avec les Stranglers.
Joe Dassin dans cet endroit.
Ouais, c'est vrai qu'il en parle.
Ça doit bien avoir un rapport avec quelque chose qu'on a dit quand même.
Avec les Stranglers.
Avec la chaleur, peut-être.
Ah, ouais, ça doit.
Ah, ben ouais.
On trouve pas. Allez, vas-y, on donne la langue.
Non, alors d'abord, ici, quand on en parle, c'est parce que. L'arrière-saison est chaude, oui. On a l'impression d'être... L'été se prolonge, on va dire. Mais en fait, on l'utilise vraiment de façon pas du tout appropriée, parce qu'on ne devrait même pas l'utiliser en France. C'est un terme qui n'existe réellement, qui n'a vraiment qu'une fonction en Amérique du Nord. Parce qu'il n'y a que là-bas qu'il y a ce phénomène, qui n'est pas ce que nous, on appelle l'été indien. C'est dans les Appalaches.
Et pourtant, on comprend tous ce qu'on veut dire par là.
Dans les rocheuses, ouais, mais c'est vraiment pas ce qui se passe là-bas. Là-bas, c'est vraiment... Il fait très froid, et tout d'un coup, il fait très chaud. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une différence de température, et on l'appelle l'État indien. Mais ça n'arrive que dans les rocheuses, les Appalaches, là où il y avait les Indiens. Et du coup, eux, ça leur faisait rien quand ça arrivait. Par contre, les colons, j'imagine que... Pourquoi il fait chaud tout d'un coup, alors qu'il faisait super froid? C'est vraiment des grandes... Et on appelle ça l'été indien. Mais en vrai, nous, on l'utilise très mal parce que...
C'est pas le même que chez nous, quoi.
Ouais, comme
parce que nous, c'est juste un prolongement un peu de l'été.
Comment on dit...
Moi, je te crois pas.
Indien vaut mieux que deux, tu l'auras.
Et en fait, quand Joe Dassin...
Elle dit n'importe quoi.
Non, mais justement, quand t'as parlé de Joe Dassin, quand justement, lui, il en parle dans sa chanson, comme il est américain, il sait de quoi il parle, en fait. Il parle de l'été indien, pour lui, c'est pas la même chose que pour nous. Voilà.
Ok. Hugues.
Ave.
Allez. Alors, vraie petite news, d'après Tinder, TikTok, Facebook, enfin tous les réseaux sociaux, ça c'est un mot inventé par Jean-Michel, de l'enfer qui nous détraque la tête. Oh ben non, en fait, cette année, en fin d'émission, on aura le droit à un petit proverbe chinois, comme... Personne n'a jamais tout à fait tort, même une horloge arrêtée donne l'heure juste deux fois par jour.
C'était... Seulement deux fois par jour ou l'heure juste? Non, je dis, ah, j'arrête. Allez, c'est fini.
On t'expliquera.
On vous laisse tranquille.
Deux fois par jour. Prendre du paracétamol.
Non, mais lui, il faut plus qu'il prenne des médocs.
Non, c'est vrai.
Ah, moi, je me suis trouvé bien.
Les Stranglers.
C'est une bonne émission. Merci. Hein.
Okay.
Sympa, les gars.
Merci à tous. C'était Faites valser vos idées. Merci à Max, Lydia, Jean-Pierre et moi-même. Bisous à toute la famille. Merci à Fabien pour la réalisation, dans la bonne humeur et la joie. Et à bientôt. Merci. Bisous.
Bisous.